Bonsoir à toutes et à tous. Alors il est 18h, c'est l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4, comme tous les mercredis de 18h à 19h. Je suis Juliette, je suis animatrice de la campagne BDS France et du comité local BDS Provence. BDS Provence a une page Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter sur lesquels, sur tous ces comptes, vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin que nous vous contactions si vous désirez participer à nos actions ou avoir des informations ou des renseignements. BDS Provence participe au collectif Paix et Justice au Proche-Orient d'Aix-en-Provence, dans lequel on trouve aussi le collectif étudiant pour la Palestine, la LDH, Ex-Solidarité, la France Insoumise, ATTAC, Amnesty International, le Parti Communiste, le Parti Socialiste, Génération S, la TMF, Résister aujourd'hui, la Libre Pensée, je pense qu'il y en a d'autres, peut-être que j'oublie. En tout cas, ce collectif Paix et Justice au Proche-Orient a organisé au mois de février une conférence intitulée « Palestine-Israël, hier, aujourd'hui, demain ». Et nous avons eu pour cette conférence deux invités. Il s'agissait de Najla Naklé-Serruti, qui est chercheuse au CNRS rattachée à l'IREMAM, qui est spécialiste de littérature arabe contemporaine et qui nous a parlé de la manière dont les pratiques artistiques et culturelles constituent des formes alternatives de résistance. Je vous proposerai, je pense, d'ici quelques semaines, d'entendre l'intervention de Najla Naklé-Serruti, qui a été passionnante. Elle a été enregistrée, donc nous l'entendrons. Mais pour ce soir, nous allons écouter l'intervention de notre deuxième invité et intervenant. Il s'agit d'Alain Grech, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur des journaux en ligne Orient 21 et Afrique 21. Et Alain est revenu pour nous sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, puis sur la position de la France dans cette guerre, dans la guerre actuelle, et sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Donc, nous allons écouter cette intervention d'Alain Grech, qui dure à peu près 40 minutes, et nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de l'émission.
Crainte d'un carnage à Rafah, crime de guerre, crime contre l'humanité, risque de génocide, droit international bafoué. C'est une situation tragique, effroyable, dramatique. Mais les mots sont insuffisants pour dire cette catastrophe. Plus fort, plus fort. Nous vous avons invité pour prolonger nos manifestations et rassemblements que nous organisons depuis le mois d'octobre, qui disent notre solidarité et notre indignation. Nous, c'est un collectif de 23 organisations aixoises unies pour sensibiliser la population, lui faire dire son émotion, faire pression sur le gouvernement français pour qu'il agisse sérieusement. Agir pourquoi ? Pour arrêter les massacres, instaurer un cessez-le-feu durable, libérer les otages et les prisonniers politiques, arrêter la colonisation, engager un processus de paix sur la base des résolutions de l'ONU devant conduire à deux États. C'est ce que nous disons dans nos manifestations. C'est aussi l'objet de la lettre ouverte que ce collectif a adressé à la maire d'Aix à propos du pavoisement du balcon de l'hôtel de ville d'Aix qui ne porte depuis le 8 octobre que le drapeau israélien, et nous demandons avec force que le drapeau palestinien y figure aussi. C'est l'objet de la pétition que vous avez à l'entrée et que je vous invite à signer. Je vous invite aussi, mais vous l'avez fait un certain nombre d'entre vous, à regarder la très belle exposition qu'Anne-Marie a réalisé à Gaza il y a 20 ans. C'est un reportage photographique commenté que je vous engage à regarder. Et pour terminer, je voudrais signaler la soirée culturelle Solidarité Gaza que nous organisons au Château de l'Horloge le 23 mars avec la chorale Im Tseyoun et un musicien palestinien. Voilà, ce soir nous souhaitons prolonger et approfondir notre condamnation et notre compréhension, comprendre comment on en est arrivé là. Juliette va présenter nos deux conférenciers.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors nous avons deux intervenants que nous remercions vivement pour avoir accepté notre invitation. Donc je vous présente Najla Naklé Serruti, qui est chercheuse au CNRS, rattachée à l'IREMAM, et qui est spécialiste de littérature arabe contemporaine. Donc Najla nous présentera les conditions singulières dans lesquelles les pratiques artistiques et culturelles, particulièrement le théâtre, se déploient sur le terrain palestinien. Et dans ce contexte, elle interrogera la manière dont ces pratiques constituent ou pas des formes alternatives de résistance. Mais avant de laisser la parole à Najla, nous allons d'abord écouter Alain Grèche, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur des journaux en ligne Orient 21 et Afrique 21. Alain va revenir pour nous sur l'histoire du conflit, je mets toujours entre guillemets le mot conflit israélo-palestinien, puis sur la position de la France dans cette guerre et sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Alors nos intervenants vont parler pendant à peu près une heure. Et nous aurons donc du temps pour poser des questions et dans les réponses, ils pourront développer également leurs propos. Voilà, donc c'est Alain qui va prendre la parole en premier. Merci.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci à vous tous et toutes d'être là. Le 7 octobre a provoqué un choc et beaucoup de débats. Et pour savoir comment, pourquoi c'était arrivé une telle action, pourquoi on en était arrivé là. Et la réaction générale qu'on a chez beaucoup de gens de bonne volonté, c'est de dire bah, sur la terre de Palestine, Israël aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes qui habitent environ. La moitié sont des Juifs, l'autre moitié sont des Palestiniens. Et il faut qu'ils arrivent à vivre ensemble, mais il y a des extrémistes des deux côtés qui les empêchent de vivre ensemble et d'aboutir à une solution de deux États. Je voudrais expliquer pourquoi c'est très réducteur de la réalité. Oui, il y a 15 millions de Juifs et de Palestiniens qui vivent sur ce territoire. Oui, il faudra trouver une solution qui prenne en compte les aspirations de chacun, mais en même temps, ils ne sont pas à égalité. Et si on ne prend pas en compte cette inégalité fondamentale qui remonte dans l'histoire et à la situation actuelle, je pense qu'on passe à côté de ce qui est réellement ce problème israélo-palestinien. Il y a deux différences fondamentales entre la situation des Israéliens et la situation des Palestiniens. Un, c'est que l'installation des Israéliens, des Juifs en Palestine avant 1948 et des Israéliens, s'est faite aux dépens d'un peuple qui existait déjà et qui a été petit à petit chassé de ses terres. Le fait qu'en 1947, les Nations Unies aient légalisé ça est une chose, mais l'injustice fondamentale, elle est là. Et au départ, contrairement à ce qu'aujourd'hui affirment les sionistes, l'entreprise sioniste est une entreprise coloniale qui se veut comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise coloniale ? À l'époque, bien qu'on était, plutôt le début du XXe siècle, la colonisation est en train de perdre un peu de son lustre, c'est on va s'installer sur un territoire qu'on divide parce qu'on ne voit pas les habitants qui y sont et on s'y installe. Au nom de quoi ? Alors, des fois, c'était purement au nom de la force, comme les Français en Algérie. Et en, en Palestine, ça s'est fait au nom d'un supposé droit des Juifs, chassés il y a des milliers d'années de là, à revenir sur leur territoire. Personne de rationnel ne peut accepter cet argument. Qu'il y ait une relation entre les Juifs et Jérusalem, comme entre les chrétiens et Jérusalem, ou les musulmans et Jérusalem, ok. Mais on ne peut pas politiquement dire qu'il y a un droit qui est donné par un texte, qui est la Bible, qui nous a nourris tous d'une certaine manière, et qui serait une espèce de cadastre ou une espèce de document politique qui donnerait un droit. Donc il y a au départ une injustice fondamentale qui s'est traduite petit à petit par l'expulsion des Palestiniens à différentes étapes, c'est-à-dire d'abord sous le mandat britannique, avec petit à petit la conquête de la terre, l'expulsion des travailleurs palestiniens, avec l'appui de la Grande-Bretagne, qui a été jusqu'en 1943-44, avant de changer de position, un élément décisif de l'installation des Juifs en Palestine, pour beaucoup de raisons sur lesquelles on pourra revenir sur historique, mais encore une fois, ça s'est fait d'une injustice fondamentale. Et quand, en 1947, les Nations Unies décident de partager la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, à une majorité très, très faible, et puis avec cette étrange conjonction en plein début de la guerre froide des États-Unis et de l'Union soviétique, pour des raisons différentes, de soutenir la création de l'État juif. En gros, on donne, je crois que c'était 55% de la terre à l'État juif. Les Juifs représentent à l'époque 30% de la population. Et on donne le reste aux Palestiniens. Et les Palestiniens refusent. Les sionistes l'acceptent que du bout des lèvres parce qu'ils savent que ça va se décider sur le terrain. Mais, je veux dire, on peut dire que politiquement, il aurait été plus sage, compte tenu des rapports de force, d'accepter une division, que ça aurait été mieux que, ce qui est, que la guerre, etc. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à dire aux Palestiniens, mais vous avez eu tort. Il y a quelqu'un qui s'installe sur votre territoire et qui vous expulse, et on vous dit, ah, il faut partager la moitié de votre maison. Il s'est créé, ça n'empêche pas, si vous voulez, la colonisation aboutit et des fois à des états de fait qui sont irréversibles. Le problème, je ne dis pas que, et je ne pense pas qu'il faut expulser les Juifs ou les Israéliens de Palestine, ça n'a pas de sens. Je veux dire, il s'est créé des situations de fait dans les colonisations de peuplement, comme la création des États-Unis ou de l'Australie, etc., qui a créé une situation de fait. Mais il faut être conscient que c'est une injustice et que, compte tenu du fait que, contrairement à ce qui s'est passé en Australie ou aux États-Unis, les autochtones n'ont pas été tous massacrés, et qu'ils sont encore, comme j'ai dit, la moitié de la population sur le territoire de la Palestine, et l'autre moitié, et des millions dans des camps autour. Voilà, on a une situation qu'il faut prendre en compte, mais cette injustice, il faut la reconnaître. Je veux dire, on ne peut pas avoir une position politique qui ne prend pas en compte cette injustice. D'autant que cette colonisation, qui s'est achevée provisoirement par la création de l'État d'Israël en 1948, elle s'est poursuivie au sens propre. C'est-à-dire que de 48 à 67, il y avait en Israël une minorité palestinienne qui vivait notamment en Galilée, dans les villages où ils n'avaient pas été expulsés. La grande majorité des Palestiniens, comme vous savez, 700 à 800 000 Palestiniens ont été expulsés manu militari, pour l'essentiel, par les groupes sionistes, et ensuite, à partir de 48, c'était par l'armée israélienne. Donc, dans cette période qui va de 48 à 67, la colonisation des terres palestiniennes qui étaient dans les frontières de l'État d'Israël a continué. Et puis, après 67, petit à petit, s'est créée aussi cette situation. Je ne veux pas... Bon, c'est des choses que vous connaissez. Mais, encore une fois, c'est important. Nous sommes des gens de bonne volonté, et on a envie de voir une solution juste, et on a envie qu'elle ne se fasse pas non plus au détriment des gens qui sont installés, on a raison, mais il faut reconnaître qu'il y a eu au départ quelque chose qui était injuste. Quand Nelson Mandela négocie avec de Klerk les accords qui sont une forme de compromis, je veux dire, il y avait dans les années 50 et 60, en Afrique du Sud, un mouvement qui s'appelait le pouvoir noir, qui était pour qu'on expulse les Blancs. Donc, lui, Mandela négocie un compromis, mais ils demandent un certain nombre de conditions. Et la condition, c'est la reconnaissance de l'égalité. C'est-à-dire, à l'époque, l'ANC mène la lutte armée, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, qui présente l'ANC comme une espèce de mouvement pacifiste, etc. Et non, ils utilisent la lutte armée. Et dans les négociations, Mandela dit à De Klerk, nous ne rendrons pas les armes tant que vous n'aurez pas reconnu le principe de l'égalité un homme, une femme, une voix. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut négocier. Et aujourd'hui, la réalité de la situation dans ce qu'on appelle Israël-Palestine, qui est de facto un État israélien unique, mais un État d'apartheid, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un État d'apartheid ? C'est-à-dire que vous avez un Palestinien qui vit à 100 mètres d'un Israélien, ils ne dépendent pas des mêmes lois, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois, ils ne dépendent pas des mêmes juridictions. Vous savez, on parle beaucoup des otages, et peut-être on y reviendra. Il y a des milliers de Palestiniens qui sont des otages, c'est-à-dire ce qu'on appelle des prisonniers administratifs. Prisonniers administratifs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont condamnés, enfin qui sont en prison renouvelable de 6 mois en 6 mois, sans procès, et ça peut durer ad vitam aeternam. Et il y en a des milliers. C'est bon, ce que j'appelle des otages aussi. Mais en tous les cas, pour les médias français, ce n'est pas un problème. Alors, donc, il y a cette situation historique qu'il faut reconnaître si on veut trouver une solution. Et l'autre aspect qui fait qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos Israéliens et Palestiniens, c'est qu'il y en a un qui est un occupant et l'autre qui est occupé, tout simplement. Il y en a un qui a la force et l'autre qui est faible. Ce n'est pas une situation de deux partenaires égaux. C'était la grande erreur des accords d'Oslo. Peut-être qu'ils auraient pu aboutir, là aussi on pourra en discuter, mais ça a été de la communauté internationale de dire, bon, ils sont arrivés à des accords qui étaient très mauvais, mais qui auraient peut-être pu développer une dynamique de paix. Mais on a laissé les Israéliens et les Palestiniens négocier comme s'ils étaient deux partenaires égaux. Et évidemment, les Israéliens ont imposé des conditions tellement, drastiques qu'il a été impossible de créer un État palestinien viable. C'est-à-dire que, comme vous savez, la colonisation, c'est-à-dire la conquête de terres, l'expulsion de Palestiniens, etc., de 1993, c'est-à-dire le moment où les accords sont signés jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas arrêté un jour. Ni Rabin, ni Peres, ni les autres n'ont jamais arrêté cette colonisation. Donc il n'y a jamais eu prise de conscience en Israël qu'on ne pouvait pas avoir et l'occupation et la paix. Et donc ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où il y a des extrémistes de deux bords. Vous savez, aujourd'hui, il y a une focalisation sur Netanyahou. Et une partie de la société israélienne se focalise sur Netanyahou. Mais en 2022, il y avait le gouvernement de l'opposition. Il a fait exactement la même chose que Netanyahou. Il a continué la colonisation, il a fait une guerre à Gaza, et aujourd'hui, une partie de cette opposition est dans le gouvernement, enfin, dans le cabinet de guerre. Il n'y a pas aujourd'hui, on pourra en discuter, de forces réelles en Israël qui sont des forces qui sont prêtes à un compromis historique sur la Palestine. C'est un compromis historique, c'est-à-dire de dire, encore une fois, la seule solution, c'est de reconnaître le principe d'un homme, une femme, une voix. Sous forme d'un État, deux États, cinq États, mais c'est ce principe-là qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité de la société israélienne refuse. Et encore une fois, vous vous souvenez, juste avant le 7 octobre, il y avait toutes ces fantastiques manifestations israéliennes contre Netanyahou. Oui, c'était bien. Il défendait la démocratie. Il défendait la démocratie pour les juifs israéliens. La Cour suprême qui a été présentée comme une espèce de comme garant de la démocratie, elle était garante pour les juifs israéliens. La Cour suprême a confirmé depuis des années toutes les lois discriminatoires à l'égard des Palestiniens. Toutes. Et la fameuse loi qui est en 2018, je crois, une loi fondamentale qui dit que seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination sur le territoire palestinien, elle a été ratifiée par 11 voix sur 12 de la Cour suprême. Donc oui, la Cour suprême, c'est très bien que la Cour suprême existe, elle garantit effectivement un certain nombre de libertés, mais seulement pour les juifs israéliens. Et ça, c'est aussi important à comprendre. Donc, voilà ce que je voulais dire. Hein. On ne peut pas lire ce conflit à travers l'idée il y a deux peuples, il y a des méchants de chaque côté, et que si on élimine les méchants de chaque côté, on va trouver une solution. Et je vais dire un mot sur le 7 octobre, pas sur ce qui s'est passé. Il y a deux choses. D'abord, l'essentiel des informations qui sont venues, en gros, entre le 7 octobre et fin novembre, étaient des mensonges. C'est-à-dire les enfants décapités. Vous savez, il y a eu cette affaire des enfants décapités. Netanyahou l'a reprise, les nourrissons décapités. Il a montré les photos à Biden, et Biden a dit « je les ai vues ». Et on sait aujourd'hui que c'est faux. Je ne sais pas ce que Biden a vu, je ne sais pas s'il a fait ça uniquement pour ce point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, mais on pourra discuter, ça demande beaucoup de développement, qu'il y a eu des exactions, qu'il y a eu peut-être des crimes, pas peut-être, il y a eu des crimes des civils qui ont été tués par les Israéliens, mais l'opération lancée par le Hamas, elle a fait 1200 morts, elle a fait 350 morts israéliens. Soldats israéliens. C'est-à-dire qu'elle a été aussi une opération militaire. Elle s'est accompagnée de crimes, mais ce que je veux dire là-dessus, ce n'est pas pour justifier les crimes sont injustifiables, mais qu'on a été soumis à une campagne de propagande orchestrée délibérément par le gouvernement israélien, reprise par les médias français, pour créer ce que j'appelle, je reprends une formule, un génocide d'atmosphère. C'est-à-dire une justification du génocide. Comme je dis, même si les crimes sont avérés, et beaucoup ne le sont pas, rien ne justifie ce qui se passe à Gaza. Mais en même temps, on voit bien comment s'est créé ce génocide d'atmosphère qui a permis de justifier tous les crimes jusqu'à un certain niveau. Alors pour notre gouvernement, je crois que c'est des 12 000 Palestiniens tués. Alors là, il a commencé à dire non, c'est peut-être un peu trop. Pour les Américains, même 30 000, c'est pas assez. Mais je veux dire, c'est aussi de ne pas comprendre. Si vous voulez, il y a Gideon Levy, qui est un des journalistes de Haaretz, le journal israélien, qui est un des plus courageux, et qui dit à propos de... Il le disait à propos du fait que les gens de Gaza, le Hamas envoie des roquettes sur Israël. Il dit, mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'envoyait pas des roquettes ? Est-ce qu'on négocierait avec les Palestiniens ? Est-ce qu'on arrêterait la colonisation ? Est-ce qu'on libérerait les prisonniers politiques ? J'ai, dans un article que j'ai écrit pour Le Monde diplomatique en novembre, j'ai fait une comparaison avec l'ANC. Parce qu'il y a en partie une mythologie de l'ANC, parce que l'ANC a mené des luttes très, très combatives. Elle a utilisé aussi l'arme du terrorisme, si on appelle terrorisme le fait de s'attaquer à des civils, etc. Mais c'est vrai qu'elle l'a fait de manière beaucoup plus limitée que les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que l'ANC disposait, dès les années 60-70, du soutien du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire quasiment, à part les pays occidentaux, tout le monde, du camp socialiste, y compris en armement, parce que personne ne disait que le mouvement de boycott de l'Afrique du Sud était un mouvement raciste. Et aussi, il faut le dire, mais que l'intervention des troupes cubaines en Angola a cassé l'armée sud-africaine. Tout ça, aujourd'hui, les Palestiniens ne l'ont pas. C'est-à-dire, à la veille du 7 octobre, et c'était une des raisons avancées d'ailleurs par le Hamas pour justifier le 7 octobre, c'est que la question palestinienne avait disparu des écrans. Je veux dire, Macron disait à la réunion où il a reçu à Saint-Denis, je crois, tous les partis politiques, il y a eu une question sur Palestine, il a dit c'est fini, c'est l'affaire de second ordre, c'est fini. Donc, après, on peut dire c'est pas bien d'utiliser la violence, c'est pas bien d'utiliser les armes, personne n'a envie que des gens soient tués, etc. Mais on peut pas mettre des gens dans une cage et penser qu'ils vont pas réagir. Et là aussi, dans l'article, j'ai cité, parce que c'est quelqu'un que je connaissais, cette femme qui est la fille du général Peled, général Peled, c'est un des généraux qui a mené l'armée israélienne à la victoire en 67 et puis qui est devenue une colombe. Et en 1996, sa petite fille est tuée dans un attentat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire ? L'attentat du Hamas, un attentat suicide. Et elle écrit un article que Le Monde Diplo avait publié à l'époque. Elle était aussi une amie, enfin, elle avait fait ses classes avec Netanyahou. C'est la même génération, ils avaient été à l'école ensemble, et Netanyahou l'appelle pour lui présenter ses condoléances. Et elle dit, mais c'est toi qui es responsable de sa mort. C'est toi, par le refus de négocier, par le refus d'aller vers un État palestinien, etc., qui es responsable de sa mort. Et là, j'ai vu récemment qu'après le 7 octobre, elle a fait sur un groupe WhatsApp un commentaire pour dire, mais elle citait Sartre, d'ailleurs un texte de Sartre, qui est, je crois, la préface à l'anthologie de la poésie noire, où Sartre dit en gros, quand vous levez le pied de la tête que vous avez mis sur les esclaves noirs et vous leur laissez un peu d'air, qu'est-ce que vous espérez voir dans leurs yeux ? De l'amour ? Et elle disait la même chose à propos des Palestiniens. Elle a été suspendue de son poste pour de tels propos. Et c'est vrai que les quelques Israéliens qui ont des positions très courageuses, et il y en a heureusement, sont soumis aujourd'hui à une pression sans précédent. Donc, encore une fois, je ne sais pas quel est... Moi, je ne suis pas dirigeant palestinien, ce n'est pas moi qui fixe, et je crois qu'on n'a pas à dire, nous, qu'est-ce que les Palestiniens devraient faire. Mais je crois que c'est important de comprendre que, encore une fois, on ne peut pas mettre des gens dans une situation insupportable et penser que ça va durer, et penser qu'on peut avoir et l'occupation et la vie tranquille à Tel Aviv. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais c'est la réalité. Je voudrais terminer en disant... Je sais pas combien de temps je parle, ça fait combien de temps ? Ça va ? Bon. Je voudrais dire un mot sur la position du gouvernement français, non seulement parce que j'ai écrit un livre là-dessus, mais parce qu'elle me semble l'aboutissement, le pire de ce qu'on peut... avec cette guerre, c'est-à-dire, effectivement, on est complice d'un génocide, et j'espère qu'il y aura des poursuites faites à l'égard d'un certain nombre de gouvernements qui continuent à armer Israël, mais pas seulement à les armer. La France arme en partie Israël, c'est pas le principal fournisseur d'armes, mais parmi les pays européens, c'est un des pays qui arme, et parce qu'elle justifie, en fait, ce qui est en train de se passer. Elle justifie... Il y a deux manières, c'est-à-dire, justifier, c'est de dire, oui, c'est peut-être pas très bien ce qui se passe, mais on fait rien. Comme si on pouvait rien faire. C'est une manière d'avaliser ce qui se passe. Et oui, on avalise ce qui se passe et on crée une atmosphère aussi dans laquelle, effectivement, il devient difficile en France. Et ça aussi, c'est quelque chose pour moi sans précédent depuis 1967. C'est la période que j'ai vécue comme... militant ou quelqu'un d'intéressé à la région, une telle pression sur les gens qui prennent position. Jamais on a vu des poursuites, des interdictions de manifestation, etc. Et les interdictions de manifestation, c'est quelque chose... Une fois, je me suis demandé... Vous savez, à Nice, où on a à la fois Estrosi et un préfet de combat, ils ont pendant 6 ou 7 semaines de suite interdit les manifestations. 6 ou 7 semaines de suite, le préfet a été condamné et il a été condamné à payer 1600 euros à chaque fois aux organisations de défense de Palestine. Donc ça leur a fait un peu d'argent. Mais on se bat. Et il a eu l'appui de sa hiérarchie. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils créent une atmosphère de peur. C'est vrai qu'il y a une différence. Moi, je suis frappé entre le caractère massif des gens qui assistent au débat et le fait que les gens ont peur d'aller en manifestation, notamment si c'est des Français d'origine musulmane, arabe, etc., etc. Au début, d'ailleurs, dans les premières manifestations, on arrêtait les gens parce qu'ils portaient un kéfier. Je veux dire, et on sait très bien que pour ceux qui n'ont pas de papier ou même qui sont simplement des résidents, ça peut être un problème. Donc il y a volonté de créer cette atmosphère de peur. Donc là, il y a effectivement une complicité. Mais ça va plus loin, et c'est... Là-dessus, je vais dire quelques mots sur l'attitude du gouvernement français. Le livre, là, il fait le... il va de, en fait, de 1967 à aujourd'hui. On a rajouté un chapitre pour inclure Macron. Quand vous interrogez aujourd'hui un diplomate, des diplomates français, ils vous disent « Mais on n'a pas changé de position. La France, elle a toujours condamné la colonisation. Elle est pour une solution à deux États, etc. etc. » Mais c'est un pur mensonge. Enfin, c'est vrai théoriquement, mais pour comprendre, il faut revenir. En 1967, De Gaulle, qui n'est pas un ennemi d'Israël, qui est un grand admirateur même du sionisme, qui a une correspondance avec David Ben-Gourion, qui est le fondateur de l'État d'Israël, à la veille de la crise de la guerre entre Israël et les pays arabes, il dit une chose, « Moi, je condamne celui qui tire le premier. » Et c'est Israël qui a tiré le premier. Dans le livre, on montre une illustration où François, au 5 juin 67, c'est-à-dire au début de la guerre, titre en gros « L'Égypte attaque Israël ». Déjà, la propagande israélienne était assez bien faite. Bon, mais De Gaulle dit aussi, et c'est réellement en relisant, je me suis dit, mais bon, moi j'appartiens aussi à une génération qui est descendue dans la rue contre De Gaulle, etc., donc je n'ai pas forcément une grande admiration, mais il donne une conférence de presse en novembre 67, et il dit « Israël organise sur les territoires qu'il contrôle l'occupation. L'occupation ne peut pas aller sans arrestation, déportation, etc. » qui suscite une résistance qu'Israël appelle le terrorisme. Il a résumé, je veux dire, vraiment, c'est avec une force à une époque où, bon, on ne parlait pas beaucoup des Palestiniens. Et cette vision va imprégner la politique française, en gros, jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy. Alors, tous les présidents n'ont pas été exactement sur les mêmes positions. Et le meilleur, je dois le dire, et j'ai presque honte de le dire, c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui accepte l'ouverture d'un bureau de l'OLP à Paris. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui fait la première rencontre entre un ministre des Affaires étrangères français et Yasser Arafat. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui entraîne l'Europe dans la fameuse déclaration de Venise de 1980, dans laquelle il dit les conditions de la paix entre Israël et les pays arabes, c'est reconnaissance du droit d'Israël à la paix et à la sécurité, reconnaissance du peuple palestinien à l'autodétermination et négociation avec l'OLP. À l'époque, Begin, qui est Premier ministre, dit « Oui, il nous demande de négocier avec les Hitlers arabes ». Et c'est à l'époque où, évidemment, l'OLP est considérée comme une organisation terroriste par les Américains, par Israël. Il n'est pas question de négocier. Mais cette action concrète de la France pour faire bouger les lignes a eu une influence qui a abouti aux accords d'Oslo avec toutes leurs limites, mais avec l'idée qu'il fallait négocier avec l'OLP. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce n'est pas les prises de position de principe. C'est que, jusque-là, la position française dans les relations bilatérales avec Israël, c'était de dire on ne peut pas séparer totalement les relations bilatérales qu'on a avec Israël de ce qui se passe en Palestine. Et les relations sont effectivement assez tendues. Et la France n'hésite pas à condamner assez fortement Israël, à prendre des mesures, etc. etc. Et donc, il y a une action de la France et évidemment l'action diplomatique dont j'ai parlé. Ce qui va changer à partir de Sarkozy, qui va être repris par Hollande et aujourd'hui par Macron, c'est qu'il n'y a plus aucune pression exercée sur Israël, il n'y a plus aucune volonté de faire émerger une solution politique, de se battre pour une solution politique, et de considérer que, quand même, dans la réalité, comme j'ai dit, si un occupant a un occupé, la partie qui refuse les négociations et la solution, c'est la partie israélienne. C'est Israël qui refuse un État. D'ailleurs, Netanyahou le dit ouvertement. Il dit « on ne veut pas un État palestinien ». Et après, quand le Hamas dit la même chose, « nous ne voulons pas un État, nous voulons un État unique », on dit « c'est scandaleux et on ne peut pas négocier avec eux ». Mais si on peut négocier avec Netanyahou, qui dit clairement qu'il ne veut pas un État palestinien, il y a quand même un problème. Et puis surtout, les relations bilatérales, à la fois entre la France et entre l'Europe et Israël, ont atteint un niveau qui rappelle ce que l'alliance stratégique entre la France et Israël en 1956, au moment où Guy Mollet était chef du gouvernement et où on s'embarquait dans la guerre contre l'Égypte de Nasser et pour reconquérir le canal de Suez. Donc c'est ça la réalité. Et je vais vous dire, on peut publier 10 communiqués pour dire que la colonisation, c'est pas bien, ou même des communiqués pour dire quand même, il faudrait que les Israéliens se contrôlent un peu à Rafah. Si on ne prend aucune mesure, ça n'a aucun effet. Et ça, c'est effectivement grave. Or, les mesures, on peut les prendre, c'est-à-dire... Alors, il y a deux types de mesures qu'on peut prendre. Il y a celle dans le cadre européen, mais c'est plus dur, parce que l'Union européenne a évolué aussi, du fait de la France, dans des positions de plus... Enfin, pro-israéliennes, notamment les anciens pays de l'Est sont encore plus pro-Netanyahou que Netanyahou lui-même. Mais la France peut, du point de vue bilatéral, comme j'ai dit, les ventes d'armes. Aujourd'hui, la France a pris des sanctions contre 8 colons extrémistes. Je rappelle que les colons, même les plus tranquilles dans les territoires occupés, commettent des crimes que la Cour pénale internationale considère être comme des crimes de guerre, c'est-à-dire la colonisation. Il n'y a pas besoin d'avoir un fusil ou d'aller attaquer les Palestiniens. L'installation de colonies dans des territoires occupés est un crime de guerre. On pourrait prendre des mesures beaucoup plus larges contre eux. Donc, et tout ça, on ne le fait pas. On pourrait aussi reconnaître l'État palestinien, sous Hollande, le Parlement avait adopté une résolution en disant on reconnaîtra l'État palestinien si dans un an il n'y a pas de solution. Et on n'a pas reconnu l'État palestinien. Donc il y a une possibilité de prendre, mais il n'y a pas une volonté. Alors la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est... Une des raisons pour ça, et qui rend la chose beaucoup plus difficile, c'est que, pour moi en tous les cas, il y a un vrai rapport entre cette position de la France, l'adoubement du Rassemblement national à une marche contre l'antisémitisme, ce qui est quand même la chose la plus incroyable qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que ce parti fondé par des anciens SS soit adoubé par l'ensemble de la classe politique, à part la France insoumise et quelques autres partis, sans que ça suscite un problème. Et alors qu'on sait très bien que, je veux dire, l'antisémitisme... Je veux dire, Bardella a dit encore il y a 3 jours ou une semaine que Le Pen n'était pas un antisémite. C'est-à-dire, vraiment, ils n'ont pas réglé cette question. Et ça m'amène à une chose importante sur l'antisémitisme. C'est une des choses qui est frappante aujourd'hui. C'est l'alliance qui se dessine, pas qui se dessine, qui se renforce entre Israël et les forces d'extrême droite en Europe, y compris quand elles sont antisémites. Que je résumerai comme une chose. Pour Israël, le fait d'être antisémite n'est pas un problème si vous soutenez l'État israélien. Et pourquoi vous soutenez Israël si vous êtes antisémite? Parce que, comme disait quelqu'un, en fait, pour un certain nombre d'antisémites, Israël, c'est pas des juifs, c'est des colons avant tout. C'est des blancs comme nous. C'est des gens qui tapent sur les Arabes et les musulmans. Et à une époque où on tape beaucoup en France et en Europe sur les Arabes et les musulmans, effectivement, il y a une espèce d'alliance qui se crée comme ça, et qui est une alliance occidentale. Et je pense que la France est dans cette logique. C'est la logique qui a commencé à partir de 2001 avec la guerre contre le terrorisme, où brusquement, les Américains ont lancé une guerre contre le terrorisme sans qu'on sache réellement... Je ne sais pas ce que c'est le terrorisme, excusez-moi. Quand on me dit « Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ?» Je dis « Bon, essayons de définir, prenons un temps. On vous assène ça, évidemment, si vous dites « Écoutez, c'est plus compliqué », on va vous dire « Ah, mais vous êtes un complice du terrorisme. » Une organisation, je connais des organisations communistes, socialistes, fascistes, d'extrême droite. Je ne connais pas d'organisation, même pas Al-Qaïda, qui fait du terrorisme son idéologie. C'est-à-dire, c'est pas un but de guerre ni du Hamas, c'est pas un but politique du Hamas de faire du terrorisme, c'est absurde. Donc, on a utilisé ce terme terrorisme aujourd'hui pour désigner en gros les ennemis et justifier des guerres qui globalement sont menées contre le monde arabo-musulman, et en plus avec un aspect qui est en France la montée d'une islamophobie et d'un racisme anti-arabe, qui est aussi inquiétante. Et je pense que dans la position du gouvernement français, dans cette alliance entre les forces politiques autour du, avec cette légalisation du Rassemblement national, il se joue quelque chose qui va bien au-delà d'Israël. Il se joue quelque chose de savoir est-ce qu'on veut être partie de ce monde occidental qu'on prétend défendre, qui est un monde blanc, soi-disant judéo-chrétien. Quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, je me dis, mais on imagine que les Juifs qui ont vécu entre l'origine des temps et la fin du 19e siècle, si on leur avait dit, vous vivez dans une civilisation judéo-chrétienne, avec toutes les persécutions, etc., personne ne... Aujourd'hui, on a inventé ça pour créer, en fait, une arme de combat contre les musulmans. Et donc, il y a, c'est aussi une des choses qui rend le combat aujourd'hui difficile, c'est qu'on est au-delà de la simple question palestinienne et de quelle solution trouver pour la Palestine. On est aussi dans un monde qui est en train de changer, qui est un monde dans lequel l'Occident continue de peser de manière importante, hein, je veux dire, mais moins importante, dans lequel il est contesté de tous les côtés. Et on sent dans nos pays une espèce de crispation comme ça sur l'identité, notre identité chrétienne, notre identité, etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très grave. Et je termine sur une chose, parce que je n'en ai pas parlé, qui est aussi le signe que quelque chose bouge au niveau international, c'est la Cour internationale de justice. Ce qui s'est passé, à mon avis, bien que pour l'instant, ça n'ait pas d'effet concret, c'est un changement profond, c'est-à-dire pour la première fois, les pays du sud global, comme on dit maintenant, ont pris en main les institutions créées par les Occidentaux, au départ la Cour internationale de justice, pour s'en faire une arme, en posant une question, et vraiment je termine là-dessus, c'est aujourd'hui de savoir dans quel monde on veut vivre. Où on vit dans un monde où le droit international s'applique à tout le monde. C'est-à-dire, il s'applique à la Russie quand elle envahit l'Ukraine, elle s'applique à Israël quand ils mènent une guerre génocidaire contre les Palestiniens. Il s'applique à tout le monde, et pas seulement à quelques dictateurs africains qui sont isolés et qui n'ont pas de soutien. Ou bien on va rentrer dans un monde, et c'est aussi une menace, qui est la loi de la jungle. C'est-à-dire où toutes les institutions qui ont été créées après 1945, la victoire contre le nazisme, vont s'effondrer, et où, comment vous allez expliquer demain à un dictateur ou quelqu'un même qui envahit son voisin que c'est pas bien de le faire si vous avez pendant des mois et des mois soutenu la guerre menée par Israël. Là, il y a aussi un enjeu important, et encore une fois, qui dépasse beaucoup la question d'Israël et de la Palestine. Je vous remercie.
Voilà, eh bien, merci. Merci à Sidi pour la technique. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un court entretien entre un des frères Joubran, vous savez, le trio Joubran, les musiciens, un des frères qui s'appelle Wissam, et un entretien entre lui et François Ruffin, qui est un député de la France Insoumise. Et il se trouve que François Ruffin a rencontré par hasard les trois frères Joubran dans le train pour Amiens. Il a discuté avec eux et il a souhaité prolonger cette rencontre avec un des trois frères, qui est celui qui s'appelle Wissam, qui est luthier. Et il est allé le rencontrer dans son atelier de luth à Paris. Et donc, François Ruffin rapporte un propos de Wissam, qui est donc luthier, je répète, et qui dit « Je porte ce luth et je lutte avec. Je lutte jusqu'à la libération de la Palestine. » Donc, c'est un joli jeu sur les mots. Wissam Joubran est considéré comme un ambassadeur de la cause palestinienne par sa musique, et donc dans son atelier à Paris, il évoque la figure de celui qu'il appelle son père, le poète Mahmoud Darwish. Et c'est cet entretien donc que nous allons écouter et qui a été intitulé « Lutte pour la Palestine », mais « Lutte » écrit comme l'instrument de musique. Donc nous écoutons cet entretien et nous nous retrouvons tout de suite après.
Sam, on s'est croisé dans le train, vous montiez vers Amiens avec tes frères, donc vous êtes joueurs de oud, tous les trois, vous chantez, et vous êtes considérés comme des ambassadeurs de la Palestine partout dans le monde, avec la musique que vous portez, qui est la musique traditionnelle de la Palestine. Et là, ici, on est dans votre atelier, dans ton atelier, je me souviens.
Oui.
Et là, ici, on est dans ton atelier, dans le 15e arrondissement à Paris, où tu fabriques des ouds, où tu as une collection de oud, et où tu formes des élèves à jouer du oud.
Tout ça, c'est lourd. Surtout quand tu as mentionné en fait que je suis l'ambassadeur des Palestiniens ou de la Palestine. C'est une responsabilité. Étant artiste, bien sûr, on porte un message. Il y a toujours un message à porter. Mais quand ça vient à la politique, c'est très lourd pour un artiste. J'espère un jour d'être libéré de ce poids sur notre tête et juste créer l'art pour l'art. Aujourd'hui, malheureusement, la Palestine souffre. Ça fait 75 ans que les Palestiniens souffrent. Et un artiste, il porte ce message quand il voyage avec cet instrument, avec n'importe quel art. Il porte un message que les Palestiniens méritent de vivre en liberté, comme tout le monde. Un enfant a le droit d'aller à l'école comme tous les enfants, étudier et avoir des rêves et réaliser ses rêves. Je porte ce lutte et je lutte avec, jusqu'à la liberté de la Palestine.
Malgré toi, finalement tu es condamné à faire de la politique, malgré toi.
Je ne veux pas faire la politique, absolument pas. Je porte un message très humain en fait, que chacun mérite de vivre en liberté. Je ne veux pas faire le politicien, mais je suis obligé de porter une parole des Palestiniens qui sont en prison. Gaza, c'est le plus grand prison sur cette terre. Et maintenant, avec cette guerre, ce qui est en train de se passer, j'ai pas de parole, honnêtement. Toutes les paroles, il n'y a plus de paroles pour expliquer ce qui est en train de se passer. Des génocides, pas un génocide, des génocides quotidiens. Et je porte tout ça. Et à la fin, je porte le lutte pour dire quelque chose. Sans parole, sans texte, juste la musique, c'est très lourd. Et ça marche. Dans le sens, un jour, mon concert était interdit dans la ville natale, à Nazareth, parce que les Israéliens considèrent que ma musique est dangereuse.
Sans même parler, juste la
musique. Même pas parler, même pas de parole, juste la musique. Ça devient dangereux.
Parce que ça rassemble les Palestiniens?
Apparemment, parce que ma musique, ça ressemble aux Palestiniens, oui. Ça, c'est la porte-parole des Palestiniens, c'est la simplicité. C'est ça qu'on cherche, nous, les truies joubrins, quand on compose notre musique. C'est la nature de la Palestine, c'est l'odeur de la cuisine palestinienne, des plantes. C'est la parole d'un enfant. C'est la parole d'une femme qui n'arrive pas à nourrir ses enfants. Tout ça, c'est notre musique.
Et quand vous fabriquez des luths, quand vous formez des gens à jouer du luth, vous avez le sentiment de lutter, de participer à la lutte?
Quand je fabrique le oud, c'est un exemple que je porte depuis 4 générations, en fait. Ma famille a commencé de créer le oud en 1890, avant la création d'État d'Israël, bien avant. Et on va continuer. Je suis la 4e génération et je vais donner ce message pour la nouvelle génération.
C'est-à-dire qu'au moment où on voudrait détruire le peuple palestinien, détruire la culture palestinienne, détruire la musique palestinienne, finalement, jouer du oud, c'est une forme de résistance.
C'est pas que jouer le oud, toutes les formes d'art, la peinture, la poésie, la musique, même il y a des réalisateurs qui sont très connus mondialement aujourd'hui. Tout ça, c'est de l'art, c'est de la culture. La culture, c'est la preuve que la Palestine existe. Un pays sans culture, il n'y a pas de pays. Quand je veux connaître quelqu'un, je demande qu'est-ce que tu manges, c'est quoi le plat qui est créé par ta culture, ta musique, comment tu t'habilles. Pour moi, c'est ça la culture. Et c'est la preuve qu'un peuple existe, et depuis longtemps. Qui ça se crée. Et je ne sais pas, il y a une magie dedans. Et on a eu beaucoup de succès avec ce morceau.
Ça fait maintenant près de 20 ans que vous êtes installé en France.
Quand je suis arrivé en France, j'ai senti quelque chose de particulier. J'ai senti cette richesse, j'ai senti ce respect de la multiculture. J'ai rencontré énormément de gens très intéressants. Même les managers qui travaillent pour moi, c'est comme une famille, ce n'est pas juste business. C'est des personnes qui travaillent avec le cœur. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être ce sentiment a changé. Et je me demande pourquoi. Mais je pense que j'ai peut-être la réponse. La politique française a beaucoup changé. Les politiciens que j'ai connus à l'époque, comme Jacques Chirac et des autres, ce n'est pas comme aujourd'hui. Un président français aujourd'hui serre les mains avec un criminel. Pour moi, c'est très choquant.
Il y a une figure que je voulais qu'on évoque ensemble, c'est la figure du poète Mahmoud Darwish, parce que je sais que vous le considérez comme un père quasiment.
Mahmoud Darwish, c'est l'inspiration. Mahmoud Darwish, c'est un père dans tous les sens. Pas physique, mais Mahmoud Darwish, j'ai appris avec lui même la musique. Parce que quand elle récite ses poèmes, il y a de la musique, il y a du rythme. Ses paroles, on est en train de le vivre. Je peux vous dire qu'il a écrit un poème en 1992. Si je peux lire ce poème aujourd'hui, on est en train de le vivre.
C'est quoi ce poème ?
Le poème, c'est un message de chef des Indiens vers l'homme blanc. Et il finit ce poème par une question. « Oh, l'homme blanc, où tu ramènes ton peuple et le mien ?» Il a mis tout le monde dans le même bateau, avec tout ce qui est en train de se passer. Parce que la guerre aujourd'hui, ce n'est pas que la Palestine, c'est en train d'affecter dans toute la zone. Tout le monde est concerné.
Ce oud-là, c'est toi qui l'as fabriqué ?
Ce oud, c'est moi qui l'ai créé. Pendant que Mahmoud Darwish était là, chaque quelques jours, il venait pour visiter mon petit atelier, ce n'était pas ici. Et chaque fois, voilà, il me dit, oh, ça c'est sa main, ça c'est sa tête. Et finalement, voilà, l'instrument, quand il a été fini...
Donc, tu as choisi d'y mettre des colombes ?
Les deux colombes, c'est le symbole de la paix. Et puis, une partie de son poème sur cette terre.
De quel poème ?
Le poème de Mahmoud Darwish sur cette terre, qui mérite de vie.
Donc là, tu as inscrit un poème de Mahmoud Darwish au milieu de ton oud. Est-ce que tu peux nous lire
Alors... على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.
Donc je lis la traduction de ce poème de Mahmoud Darwish qui est inscrit au milieu de ton oud. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. on l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame.
Mahmoud Darwish.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors il est 18h, c'est l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4, comme tous les mercredis de 18h à 19h. Je suis Juliette, je suis animatrice de la campagne BDS France et du comité local BDS Provence. BDS Provence a une page Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter sur lesquels, sur tous ces comptes, vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin que nous vous contactions si vous désirez participer à nos actions ou avoir des informations ou des renseignements. BDS Provence participe au collectif Paix et Justice au Proche-Orient d'Aix-en-Provence, dans lequel on trouve aussi le collectif étudiant pour la Palestine, la LDH, Ex-Solidarité, la France Insoumise, ATTAC, Amnesty International, le Parti Communiste, le Parti Socialiste, Génération S, la TMF, Résister Aujourd'hui, la Libre Pensée, je pense qu'il y en a d'autres, peut-être que j'oublie. En tout cas, ce collectif Paix et Justice au Proche-Orient a organisé au mois de février une conférence intitulée « Palestine-Israël, hier, aujourd'hui, demain ». Et nous avons eu pour cette conférence deux invités. Il s'agissait de Najla Naklé-Serruti, qui est chercheuse au CNRS rattachée à l'IREMAM, qui est spécialiste de littérature arabe contemporaine et qui nous a parlé de la manière dont les pratiques artistiques et culturelles constituent des formes alternatives de résistance. Je vous proposerai, je pense, d'ici quelques semaines, d'entendre l'intervention de Najla Naklé-Serruti, qui a été passionnante. Elle a été enregistrée, donc nous l'entendrons. Mais pour ce soir, nous allons écouter l'intervention de notre deuxième invité et intervenant. Il s'agit d'Alain Grèche, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur des journaux en ligne Orient 21 et Afrique 21. Et Alain est revenu pour nous sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, puis sur la position de la France dans cette guerre, dans la guerre actuelle, et sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Donc, nous allons écouter cette intervention d'Alain Grèche qui dure à peu près 40 minutes et nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de l'émission.
Crainte d'un carnage à Rafah, crime de guerre, crime contre l'humanité, risque de génocide, droit international bafoué. C'est une situation tragique, effroyable, dramatique. Mais les mots sont insuffisants pour dire cette catastrophe. Plus fort, plus fort. Nous vous avons invité pour prolonger nos manifestations et rassemblements que nous organisons depuis le mois d'octobre, qui disent notre solidarité et notre indignation. Nous, c'est un collectif de 23 organisations aixoises, unies pour sensibiliser la population, lui faire dire son émotion, faire pression sur le gouvernement français pour qu'il agisse sérieusement. Agir pourquoi ? Pour arrêter les massacres, instaurer un cessez-le-feu durable, libérer les otages et les prisonniers politiques, arrêter la colonisation, engager un processus de paix sur la base des résolutions de l'ONU devant conduire à deux États. C'est ce que nous disons dans nos manifestations. C'est aussi l'objet de la lettre ouverte que ce collectif a adressé à la maire d'Aix à propos du pavoisement de du balcon de l'hôtel de ville d'Aix, qui ne porte depuis le 8 octobre que le drapeau israélien. Et nous demandons avec force que le drapeau palestinien y figure aussi. C'est l'objet de la pétition que vous avez à l'entrée et que je vous invite à signer. Je vous invite aussi, mais vous l'avez fait un certain nombre d'entre vous, à regarder la très belle exposition qu'Anne-Marie a réalisée à Gaza il y a 20 ans. C'est un reportage photographique commenté que je vous engage à regarder. Et pour terminer, je voudrais signaler la soirée culturelle Solidarité Gaza que nous organisons au Château de l'Horloge le 23 mars avec la chorale Im Tseyoun et un musicien palestinien. Voilà, ce soir nous souhaitons prolonger et approfondir notre condamnation et notre compréhension, comprendre comment on en est arrivé là. Juliette va présenter nos deux conférenciers.
Binti Shah.